Torréfaction est un podcast Geekzone intégralement produit grâce à vos soutiens sur Patreon. Pour plus d'informations, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 91e épisode de Torréfaction. Torréfaction, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec notre sélection de l'actu, une sélection de l'actu que je réalise avec mon ami Caféine. Salut Caf.
Oui, bonjour Fesquille.
Ça va bien?
Écoute, super, on va parler que de trucs qu'on maîtrise, on est taquet. Parce qu'un jour, on vous vendra sur Patreon la version longue du podcast où pendant une demi-heure, on fait genre, t'es sûr qu'on devrait en parler de ce truc-là?
T'es sûr qu'on dit pas de la merde?
Parce que je crois qu'on n'a pas compris en fait.
T'es méchant, c'est pas toujours le cas.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai qu'on a tilté sur un sujet en particulier, mais on en reparlera tout à l'heure. Et on va commencer par Dota Auto Chess.
Ce qui est une très bonne nouvelle, car Dota Auto Chess, nous y avons jamais joué.
Voilà.
C'est pour ça que c'est une émission sans filet. On est au taquet. Mais il fallait qu'on vous en parle parce que, alors, c'est une spéciale Valve. On a plein de trucs, je sais pas, ils sont Valve, d'habitude, ils font rien. Et là, depuis quelques temps, ils se réveillent, il se passe plein de choses, donc on est obligé d'un peu d'en parler quand même.
Et ouais.
Ils sont gros, quoi. Alors, Dota, quand même, replaçons les trucs dans le contexte. Dota Auto Chess, à la base, c'est un mode pour Dota 2. Et pourquoi on en parle? Parce que c'est un mode qui cartonne, mais comme j'ai jamais vu un truc cartonner chez eux depuis très longtemps. C'est-à-dire que quand ils sortent un jeu de cartes à collectionner, personne y joue, hein, tout le monde s'en fout, le truc est quasiment mort déjà. Mais par contre, Dota Auto Chess, c'est 150 000 joueurs quasiment à toute heure de la journée. C'est un carton.
Okay.
Et alors, ce qui est hyper drôle, c'est que, comme l'explique le papier de Rock Paper Shotgun, que je vous link dans le billet qui accompagne ce podcast, c'est ni des échecs et pas vraiment du Dota.
Est-ce qu'il y a des voitures alors?
Mais c'est génial, j'adore quoi. Donc c'est des développeurs chinois qui ont fait ce mode et apparemment, bah je sais pas, ils sont pas forts en anglais ou alors il y a un quadrillage. Alors ils se sont dit c'est des échecs parce qu'il y a un quadrillage. Les règles du jeu, je vais être franc avec vous, comme j'y ai jamais joué, le truc expliqué par RPS n'est pas extrêmement clair. Ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. On sent que le mec, il est là, genre je vais vous
du mal aussi, ouais.
Mais ouais, c'est galère. Mais bon, bref, donc il y a un échiquier. Effectivement, ça ressemble, quand tu vois les captures d'écran, ça ressemble à des échecs. Mais moi, j'ai regardé des parties parce qu'évidemment, c'est un jeu qui est extrêmement streamé, pas forcément par des mecs de la communauté Dota 2. C'est ça qui est drôle. Hein, c'est le jeu commence à, enfin, Dota rayonne grâce à ce mode. Et du coup, ça n'a vraiment, enfin, c'est incompréhensible quand tu regardes l'image. Là, du coup, tu vois, il y a des fois, tu te dis, ouais, faut que tu regardes TI, les combats de Dota 2, c'est génial et tout. Puis les gens te disent, mais je comprends rien à l'action de ce qui se passe. Bah, c'est ce que je ressens quand je regarde un stream de ce truc-là. Je me suis jamais penché sur les règles. Je ne comprends rien ce qui se passe à l'écran. C'est hyper drôle. Mais du coup, ça cartonne tellement que nos amis de chez Valve ont décidé d'en faire un jeu standalone à part.
Okay.
Et qui d'ailleurs s'appellera peut-être même Dota Auto Chess, puisque bah, Dota, c'est un peu con la licence du nom, donc ils font ce qu'ils veulent. Et on apprend qu'ils ont en fait essayé de faire un partenariat avec les mecs qui font le mode. Donc ils les ont fait venir de Chine. Ils ont discuté. Ils se sont serrés la paluche. Et puis apparemment, ça s'est fini sur un ouais, non, en fait, on va pas bosser ensemble, tu me saoules. Donc, du coup, comment ça va se goupiller? Bah, d'un côté, il y a un jeu mobile qui sort par les auteurs du mode, qui vont continuer, en fait, à expérimenter, à s'occuper du mode eux-mêmes. Mais donc, Valve n'est pas impliqué là-dedans. Et il va y avoir un jeu à part, complet, qui va être édité par Valve, et qui va sortir basé sur leurs règles et sur la façon de fonctionner. La blague, c'est qu'évidemment, le jeu mobile, bah, ils ont pas les droits des personnages de Dota. Donc, ils ont refait un truc à leur sauce. Il y a le lien, si vous voulez aller vous inscrire sur la bêta qui n'est pas encore dispo, qui devrait sortir sur Android. Il y a le lien sur donc le papier de RPS. Et puis bah pendant ce temps-là, bah, on a une petite pensée pour Artifact qui continue de mourir.
Les pauvres.
Les pauvres. Je suis assez. Bah, ça me fait rire de voir l'évolution du truc. C'est pour ça que même si j'y ai pas joué, je voulais absolument vous en parler. Déjà parce que bah maintenant j'ai envie de me pencher sur la question et de savoir si c'est compliqué ou pas. Mais je vais relire et essayer ça à tête reposée. Ça a l'air quand même assez rigolo et il y a plein de gens que j'aime bien regarder en stream qui s'éclatent dessus. Donc il serait peut-être temps que je m'y mette.
Dota Auto Chess, donc qui n'est ni un jeu d'échecs ni un Dota.
C'est génial, ça, moi c'est j'adore. Clair.
On reste avec Valve très vite parce que on s'est presque battu avant d'enregistrer l'émission pour savoir si on allait en parler ou pas. Mais moi je voulais en parler. Donc Valve qui rajoute un peu en ninja une fonctionnalité qu'ils qualifient eux-mêmes d'expérimentale dans le dernier Battle Pass.
Et c'est pour une Dota pour le coup. Hein.
Pour Dota, voilà pour le coup exactement. Et qui est donc une fonctionnalité qui te permet, tu sais, quand tu termines ta partie, tu as un petit report, tu peux faire un report d'un joueur si tu estimes qu'il n'a pas été cool ou qu'il a fait de la merde ou qu'il n'a pas, il a pas été là pour jouer le jeu. Et ils ont rajouté donc dans les possibilités que tu as à ce moment-là, la possibilité d'éviter. Donc ils appellent ça avoid player, hein, pour éviter un joueur. Et a priori, ça devrait te permettre de ne plus le voir apparaître dans les prochains matchmaking que tu feras.
Il n'y a pas de rester grand monde, je vous le dis.
Voilà. Alors, il y a plein de problèmes. On en parlait hors antenne par rapport au fait que c'est vraiment pas grand chose. Enfin, c'est un pas dans la bonne direction, on va dire, mais c'est vraiment un tout petit pas. Et puis surtout, le papier que je vous linkerai de The Verge, qui a priori a testé la fonctionnalité, conclut que ça marche pas très bien. Alors, ok, c'est expérimental, mais si ça marche pas et si ça remplit pas ses fonctions de base, ça a beau être expérimental, c'est pas très utile. Et puis surtout, ce qui fait grincer des dents, c'est que c'est dans un Battle Pass, que donc il faut payer 10 balles minimum pour pouvoir avoir accès à la fonctionnalité, et qu'on a absolument aucune info concernant la viabilité de cette fonctionnalité à l'avenir, savoir si elle va être disponible que dans le Battle Pass ou si on va pouvoir y avoir accès gratuitement dans la version de base du jeu, ou s'il faudra passer par Dota Plus, qui est donc ce système d'abonnement mensuel à 4$ qui vous donne accès à des fonctionnalités supplémentaires. On a regardé tout à l'heure, on ne sait pas trop à quoi elles servent, mais apparemment il y a des gens qui payent. Donc voilà, on voulait vous en parler parce que c'est vrai que ça part d'une bonne intention, effectivement, de se dire que si on a eu une partie vraiment avec un mec ultra désagréable et qu'on veut plus jouer jamais avec, on peut le faire, mais en même temps, si ça marche pas et si c'est payant à 10 balles, est-ce que ça valait vraiment le coup?
Mais en fait, le truc, pour la raison qui fait qu'on s'est décidé de vous en parler, c'est qu'en fait, on voulait aussi pointer du doigt le problème de Valve avec tout ce qui est, on va dire, nettoyage de sa communauté, qui actuellement reste, comment disent les Américains, ils disent cesspool. Comment tu traduis ça? C'est un marais qui sent pas bon, tu vois.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Avec un tas de trucs qui ne vont pas, depuis le nom des joueurs qui ne sont pas soumis, enfin qui sont normalement soumis à une charte de bonne conduite, mais alors tu trouves de tout, avec des trucs racistes, misogynes, insultants, tout ce que tu veux.
Bah, ça reste clairement une des communautés les plus toxiques du web, hein.
Y a bah pas de... voilà, enfin du dans le jeu vidéo, ils sont assez connus. Si tu parles pas russe, tu vas rater plein de petits mots rigolos. C'est bête.
Oui, mais tu vas apprendre plein de manières de dire maman.
Voilà. Ta mère a plein de métiers rigolos et voilà quoi, ça va être sympa. Donc mettez-vous aux russes pour jouer à Dota. Donc ils ont un vrai problème avec tout ça et c'est il y a des grands travaux à entreprendre et j'ai pas l'impression qu'ils s'y mettent vraiment ou qu'ils comprennent par quel bout prendre le truc. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, on était pas d'accord parce que Fask et moi on n'a pas la même interprétation de la façon dont la fonctionnalité dont on vient de parler est présentée dans le Battle Pass. Donc on verra bien comment ça se goupille, mais en gros une chose est sûre, c'est qu'ils ont besoin de ce truc là tout le temps, mais ils auraient surtout besoin d'une, enfin je veux dire, le mec je veux pas le voir une fois pour le reporter. À la base je voudrais déjà pouvoir jouer avec des gars qui sont pas complètement débiles, ou avec mon niveau ou avec donc barre, parce que ça fait 1000 ans plus que j'y ai pas joué, donc je vous confirme que c'est un peu catastrophique pour un mec qui a 1500 heures de jeu actuellement. Je pense que je fais pas mieux qu'un noob qui a jamais joué, mais voilà, j'apprécie, j'adore le jeu, je pense qu'ils ont vraiment le meilleur MOBA de la planète, mais l'enrobage est compliqué. Et puis ce qu'on se disait en regardant toutes les fonctionnalités qu'ils essayent de faire payer, c'est qu'on comprend plus rien en termes de marketing. Il y a des trucs dans tous les sens, plus les skins, enfin c'est juste incompréhensible. Et ça gagnerait quand même énormément à être un petit peu streamlined, comme disent les Américains. C'est-à-dire que là, il faudrait peut-être un peu reprendre des bases. Mais j'ai le problème avec beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux qui partent dans toutes les directions pour vous faire raquer, et au bout d'un moment, tu comprends même plus ce que t'achètes. C'est quand tu ouvres la page de certains free-to-play, tu pètes un câble, mais vraiment très vite. Et je trouve ça insupportable. Je regrette. En ce moment, je suis en pleine phase émulation, etc. Puisqu'il y a plein de choses que je prépare pour Geekzone autour de ça. Et je relance des vieux jeux. Et putain, mais quel bonheur. Deux menus, play, option. Salut, quoi. Waouh, c'était pas mal, en fait. Alors, je veux pas passer en mode vieux con, c'était mieux avant. Mais il y a un juste milieu entre les trucs qui clignotent dans tous les sens. Et genre, je veux jouer. Lancer PUBG mobile quand vous avez pas joué depuis. Enfin, même la première installation, c'est déjà l'enfer. Mais le jeu, avant de pouvoir mais juste lancer une partie, si tu veux regarder tous les petits drapeaux qui sont allumés depuis que tu l'as joué la dernière fois, t'en as pour 20 minutes pour faire le tour de tous c'est les ça. Trucs. Ouais. Regarde, tu as un bonus là, tu as un cadeau là, tu as des pièces là, tu as cette monnaie là, et t'es sûr que tu veux pas acheter le pass? Et mais c'est insupportable. Bref, voilà, nous avons dévié, excusez-moi. Mais écoutez, j'aimais bien quand il y avait deux menus, c'était cool.
Ouais, vous linkez donc le papier de The Verge qui est plutôt sceptique par rapport à cette nouvelle fonctionnalité. Et puis on va terminer notre section gaming avec une annonce qui, moi, personnellement, m'a un peu surpris. C'est sorti cette cette semaine d'abord sur Twitter, puis ça a été relayé dans un billet plus complet sur leur site. C'est nos amis de GOG qui annoncent donc une version 2.0 de Galaxy qui se positionne désormais comme une plateforme centrale, ça s'appelle une cross-platform pour centraliser les jeux de tes différents portails, donc que ce soit Steam, Origin, etc. Donc surprenant et en même temps pas vraiment. Si on creuse un peu, on se rend compte que GOG ça va pas très très bien. Globalement le site perd de l'argent, si je dis pas de bêtises, en tout cas on gagne pas beaucoup, et heureusement qu'il y a un gros éditeur à côté qui renfloue un peu les caisses, parce que sinon je pense que le projet serait déjà mort depuis longtemps. Donc c'est un peu leur dernier baroud d'honneur, j'ai l'impression, c'est de se repositionner, ce qui est plutôt malin quelque part. On n'a pas d'infos très très concrètes, hein, ça reste encore une grosse plaquette marketing pour le moment, mais en gros ce qu'ils annoncent c'est que donc on va pouvoir avoir une bibliothèque commune pour tous les jeux, à la fois pour y jouer et pour les installer aussi. Ils annoncent aussi un cross-platform chat, donc pour pouvoir avoir une liste d'amis unique avec lesquels tu pourras communiquer sur les différentes plateformes de manière complètement transparente, mais ça c'est annoncé pour plus tard, donc je me méfie un petit peu, parce que c'est quand même une entreprise assez colossale, et puis je suis pas sûr que toutes les API soient super free pour pouvoir accéder justement au chat de Steam et compagnie, donc je sais pas comment ils vont faire. Ouais, c'est pas trivial effectivement, donc faudra voir si ça se confirme, si ça fonctionne, ou si c'est juste pour le moment du gros bullshit.
Puis attention, ça évolue en plus, quand tu vois tout le boulot qu'il y a autour du chat de Steam, etc. Par exemple, ça va être... Enfin, c'est le genre de truc, si le chat sur lequel tu te connectes change un truc dans son API, bim, ça marche plus chez toi, tu vois.
Bah, surtout que Steam va sortir une nouvelle version dans pas longtemps, a priori. Donc,
dont on parle tout à l'heure.
Donc, bon, voilà, moi, je voulais en parler parce que c'est quand même une annonce assez importante, surtout si ça se concrétise et que ça devient effectivement quelque chose d'incontournable, ça pourrait être cool. Il y a une inscription possible à la bêta pour le moment, mais la bêta n'est pas encore ouverte, donc vous pouvez juste laisser votre adresse email et vous aurez des nouvelles quand ce sera disponible en bêta pour venir tester un peu tout ça. Je voulais aussi vous rappeler qu'en attendant, si vous cherchez un soft qui vous permet de centraliser tous vos jeux, il y a Playnite qui fait plutôt bien le taf en fait. Malheureusement, il n'est disponible que pour Windows, mais bon, c'est déjà pas mal, et qui centralise donc tous les jeux Steam et même les jeux qui sont sur l'Epic Game Store. Donc voilà, il n'y a pas de chat centralisé là en
et
revanche.
Twitch. Et Twitch aussi. Twitch, ça marche parce qu'en fait, c'était bugué et c'est grâce à moi que c'est débugué.
C'est vrai.
Monsieur, oui.
Bravo,
parce que
monsieur Cassine.
Je me suis super fait chier le développeur parce que ça marchait pas.
Voilà, donc je vous relinkerai le papier qu'on avait fait sur Playnite il y a déjà un petit moment, et à l'époque ils étaient pas compatibles encore avec Epic, ils le sont maintenant, donc vous pouvez l'installer. Moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et il y a quasiment toutes les fonctionnalités dont on a besoin. Ils sont connectés avec des bases de données sur le jeu vidéo justement, donc pour récupérer toutes les infos, les artworks, etc. Donc c'est assez propre, mais c'est un mec qui développe ça tout seul dans son coin. Il a un petit Patreon, j'ai été voir tout à l'heure, il a $200, un peu plus de $200 tous les mois, donc c'est pas avec ça qu'il va gagner sa vie. Donc voilà, c'est un projet, le projet de GOG pourrait être intéressant si ça se confirme et si effectivement ils remplissent tous leurs objectifs. On va passer du côté des apps, et avant d'attaquer les apps principales, je voulais juste faire un petit coucou à un lecteur qui a développé une app. Alors c'est rigolo parce que j'avais posté une news il y a quelques mois sur une app qui s'appelait PDF Sam Basic et qui permettait donc de faire gratuitement des manipulations sur des PDF, comme le fait de séparer les fichiers, de regrouper les fichiers, de les faire tourner quand t'as par exemple des scans qui ont pas été scannés dans la bonne direction, etc. Et il m'avait répondu sur Twitter en me disant ouais, ça serait cool si ça pouvait fonctionner aussi avec les comic books, donc les fichiers CBR et CBZ. Et puis il s'est dit en fait, puisque ça existe pas, je vais le faire moi-même. Donc voilà, moi j'aime toujours bien ce genre d'initiative, je trouve ça mérite d'être salué. On a fait une petite news cette semaine pour en parler, donc c'est encore en version très très rudimentaire, on va dire. Ça s'appelle Comic Book Archive Toolbox, et donc ça permet pour le moment de splitter, de merger des fichiers et aussi de rajouter des métadonnées qui fonctionnent pour le moment qu'avec le soft Comic Rack. Mais donc voilà, c'est un premier pas dans la bonne direction, et puis surtout moi j'aime bien ce genre d'initiative, les gens qui se disent ça existe pas, je veux le faire moi-même. Donc voilà, un petit coucou à Damien Galban, je sais pas comment on prononce son nom, pour son boulot, et on vous linkera donc la news qui parle de ce petit soft. Et puis toi, tu voulais nous parler de Zenkit.
Ouais, on en a déjà parlé sur Geekzone, de Zenkit, qui est un soft d'organisation, gestion de tâches, collaborative en équipe, qui fait énormément de choses depuis sa sortie. Ils ont bien évolué, parce qu'on était déjà à la 2.0, et donc là ils ont sorti la 3.0, dont je voulais faire cette semaine un papier sur le site, mais je n'ai pas eu le temps de tester tout, toutes les bonnes choses qui ont été rajoutées. Donc je vous link le papier de nos amis de TechCrunch. Alors j'ai reçu toutes les infos par mail de leur part, et effectivement ils ont un petit peu travaillé, parce que non seulement c'est beaucoup plus joli qu'avant, mais en plus ils ont fait un truc qui est malin et qu'on voit de plus en plus, mais pas toujours très bien réalisé, c'est qu'ils ont viré toutes leurs applications natives mobiles. Tout ça c'est parti à la poubelle. C'était beaucoup trop de boulot par rapport à ce qu'ils voulaient faire, puisqu'à chaque fois que tu fais une fonctionnalité dans la version web, il faut la porter, etc. Et donc ils ont fait un développement web global, et toutes les applications mobiles maintenant c'est ce qu'on appelle des PWA, des Progressive Web App, qui est une technologie à la base de chez Google, avec un framework qu'ils utilisent qui fonctionne plutôt bien et qui permet d'avoir quelque chose de relativement rapide et qui n'a pas une gueule d'application alien sur ton téléphone. Ça reste avec un look natif plutôt propre, c'est pas extraordinairement parfait encore, hein, mais ça fonctionne vraiment bien, en tout cas mieux qu'une application qu'à la ClickUp par exemple, pour pas les citer, qui est assez catastrophique dans le genre, et leurs applications d'avant qui étaient en plus très dures à maintenir, parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils rajoutaient quelque chose sur la web, t'avais un décalage pour l'avoir sur la version mobile, elle était pas implémentée correctement, enfin bref, c'est la merde. Et du coup, pourquoi on parle de ces gens-là? Alors il y en a évidemment un milliard, hein, des softs du genre, hein, Trello, Asana et compagnie, c'est des trucs hyper connus. Eux, c'est les petits poussets du genre qui sont faits en Europe. C'est les quasiment les plus complets, en fait. Par exemple, c'est un des rares softs du genre qui a un mind map. C'est les trucs où tu vas mettre tes petites idées et faire les petites flèches entre les différentes idées pour essayer d'organiser. Bah, quand tu fais des gros papiers, des gros articles, des gros projets, c'est vraiment pratique. Évidemment, sur un petit truc, c'est pas sur votre liste de courses que vous aurez besoin de ça, on est bien d'accord, mais c'est pas non plus le but du produit. Et en plus, ils ont un tiers gratuit qui est extrêmement généreux, donc t'as vraiment pas de limitation qui t'arrive en plein dans la face tout de suite quand tu veux essayer le soft. Ils ont tous les classiques, hein. Tu peux laisser des commentaires, tu peux discuter avec ton équipe directement à l'intérieur de chaque tâche, de chaque projet sur lesquels tu vas rajouter les choses. Et puis bah, j'aime beaucoup le nouveau design, la façon dont ils ont vraiment tout mis à plat. C'est extrêmement intéressant, à tel point que j'attends vraiment de voir ce que va donner ClickUp, qui passe également en version 2.0 et avec un gros ravalement de façade un petit peu identique d'ailleurs, parce qu'ils ont la même problématique avec leurs applications mobiles, pour ne pas les citer. Et du coup, voir si nous on aime bien, on change tous les ans, tous les 200 ans.
On change tous les ans d'app, mais voilà. C'est pas pour autant que notre productivité augmente.
Non,
c'est ça,
non,
le problème,
ça nous fait plus plaisir de les mettre dedans, c'est tout.
Je crois qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est une app qui nous file des coups de pied au cul, en fait. Je pense que ça marcherait plus.
Bah, ou alors qui nous file des trucs où on mange, où on aurait le temps de faire les trucs.
Ah oui, bonne idée.
Ah, c'est ça.
Allez sur le Patreon.
Et du coup, voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous allez voir que d'ailleurs, ils ont fait une version iPad. Tiens, j'ai failli oublier d'en parler, qui est hyper, pour une progressive web app, qui est hyper bien fichue, avec la visualisation. Tu peux dupliquer l'app, donc tu peux l'avoir deux parties de ton app sur l'écran en même temps, etc. Donc, ils ont vraiment très, très bien travaillé. Et comme c'est les débuts de la 3.0, c'est une base extrêmement saine pour continuer à évoluer dans la bonne direction. Bravo les gars.
Zenkit 3.0, donc, et on vous linkera un papier de TechCrunch qui fait le résumé de tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Valve. Tiens, si on parlait de Valve.
Je crois que cette émission devrait avoir un titre.
C'est ça.
The Valve Show. Oui, c'était juste pour annoncer vite fait que Steam Chat arrive sur mobile, parce que vous savez, donc, on en parlait tout à l'heure, ils ont fait plein de travaux sur leurs applications diverses et sur la version desktop de leur client, donc le client Steam que vous utilisez tous pour lancer vos petits jeux. Et là, vous avez bien vu que la version du chat avait évolué. Elle est même maintenant quasiment séparé de l'application avec les jeux, même si on s'en rend pas toujours compte, les updates se font pas en même temps que le client des jeux maintenant. Donc évidemment, on avait bien compris qu'ils étaient en train d'essayer de faire avancer ça plus vite que le client jeu pur qui lui peut végéter, hein, puisqu'ils ont décidé de laisser moche encore 10 ans, j'ai l'impression. Donc non, je déconne, hein, on sait qu'ils sont en train de le refaire aussi, mais entre eux, ça leur permet de décorréler les deux développements, ce qui est pas plus mal. Et du coup, cette version du chat, elle arrive sur mobile dans des applications iOS et Android, avec la volonté, à mon avis, à terme, d'aller chatouiller nos amis de chez Discord, qui eux ont des applications mobiles déjà bien efficaces. Alors évidemment, il n'y a pas encore le voice chat. Le chat vocal arrive bientôt sur cette application mobile.
Il serait temps.
Bah oui, mais en fait, eux, ils l'ont déjà sur le. Enfin, il y a apparemment une version là qui normalement fonctionne. Le but, c'est d'aller de toute façon complètement concurrencer Discord. Ils peuvent pas les laisser tranquilles dans leur coin. C'est un peu logique. Mais ils ont un peu de mal. Alors j'ai vu sur différents papiers que, entre autres, sur la version Android, tu peux rajouter des emotes, etc. Et c'est un petit peu lent encore sur la version mobile. Bon, ça vient de sortir. On va leur on va les laisser laisser sécher la peinture. Mais bon, ça a avancé. L'autre bonne nouvelle, c'est que Steam Mobile, le truc dégueulasse qui nous oblige, quand tu as mis la double authentification, à lancer l'application pour avoir un truc qui ne ressemble à rien. Quand tu lances l'application, t'as l'impression de lancer une application de 2012 sur un iPhone. Ça fait un peu tâche. L'écran est pas du tout à la bonne résolution. Enfin bon, c'est une cata. Donc cette application va aussi être upgradée, mais on n'a pas encore le timing. Donc voilà, ils ont l'air de se bouger enfin, mais voilà, après avoir pioncé pendant des années sur leur laurier, on est bien d'accord pour dire qu'il était temps.
Et on vous linkera un papier de Touch Arcade sur le sujet. On passe du côté de la culture. Je voulais rapidement faire un petit plug personnel pour vous parler de la sortie cette semaine du gros dossier sur Endgame. Et donc signaler que...
Je rigolais, mais c'était pas pour ça du coup, pardon, excusez-moi, okay, désolé.
Tu rigolais pour la suite, oui, vous allez comprendre dans quelques minutes. Donc voilà, je voulais juste signaler que le dossier sur Endgame était sorti, et forcément, comme la production du film s'est déroulée en même temps que celle d'Infinity War, eh bien pour une fois, je suis pas revenu sur les coulisses de production, mais j'ai décidé de faire un petit récap, en fait, des arcs narratifs des 6 principaux Avengers, donc ceux qu'on avait vus dans le premier film, et voir un peu comment ils avaient évolué au fur et à mesure des différents films et des différentes franchises, et puis montrer que bah finalement, c'est quand même assez cohérent tout ça, malgré tout le mal que j'ai pu en lire parfois. Leur évolution est quand même assez naturelle, et voilà, j'ai fait un petit récap là-dessus. Enfin, quand je dis petit, c'était quand même quoi, 30 000 signes, donc ça va.
Ça va.
Donc vous avez de la lecture sur ce week-end si vous n'avez pas encore lu le dossier sur Endgame. Alors forcément, ça spoil. Si vous n'avez pas vu le film, attendez peut-être un petit peu. Et puis la raison pour laquelle Kaf rigolait tout à l'heure, c'est parce que je vais vous parler d'Aladdin, le remake avec des vrais acteurs qui est sorti avant-hier, mercredi, que moi j'avais pu voir au début du mois, vive les visions de presse. Malheureusement, je pouvais pas vous en parler à cause d'un embargo qui curieusement était levé le mercredi de la sortie. Donc ça, c'est toujours un petit peu suspect. Et je vous confirme que c'est pas une grande réussite. Alors j'ai lu un peu tout et n'importe quoi sur le web dans les reviews. Il y a des gens qui ont trouvé ça mouillé pas mal. Quand même pas mal de gens qui ont été très déçus. Moi, je l'attendais quand même malgré tout parce que c'était un remake qui était chapeauté par Guy Ritchie, qui est un réalisateur que moi j'aime beaucoup. Mais là, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Il y a vraiment pas du tout la patte de Guy Ritchie. Et finalement, c'est une espèce de copie carbone du dessin animé avec un Will Smith qui n'est pas Robin Williams malheureusement. Et puis surtout un gros problème. Et ça, je l'ai relevé aussi dans plein de papiers que j'ai lus. Moi, c'était un truc qui m'avait vraiment sorti du film. C'est la CGI du génie en fait qui est absolument catastrophique, alors on fait des professeurs Hulk qui sont quand même super réalistes et super convaincants. On a un génie Will Smith qui est vraiment qui me met mal à l'aise à chaque fois que je le vois, et comme en plus ils arrêtent pas de basculer entre la version génie en CGI et la version naturelle de l'acteur, et ben ça choque beaucoup parce que forcément ça marche très bien quand Will Smith est en Will Smith, mais dès qu'il passe en version CGI c'est assez foiré. Donc voilà, c'est un peu vide, c'est franchement indispensable. Si vous êtes un gros fan du dessin animé, allez peut-être le voir par curiosité, mais sinon gardez vos sous. Et puis dans la série gardez vos sous, je pense qu'on va y aller aussi, puisque le trailer de Terminator Dark Fate est sorti hier. Et comment dire, je sais pas, tu l'as vu toi ou pas?
MKV into ma télé dans mon canapé, ça rime. Je comprends pas. Enfin, tu vois, j'attends parce que là déjà on comprend rien au niveau du scénar quand tu regardes juste le trailer. Donc j'ai été obligé d'aller lire le papier qui accompagnait le trailer chez Ars Technica, je crois, pour piger. Mais qu'est-ce que bordel, je ne comprenais plus rien.
Bah, le problème c'est que dès que tu vois que ça a été coécrit par un certain David S. Goyer, qui est quand même un des gros tâcherons d'Hollywood à mon sens, hein, c'est un monsieur qui a quand même écrit paquet de merde, ça donne pas vraiment confiance.
Il est toujours là.
Je ne sais pas, écoute, parce que manifestement ces films fonctionnent malgré tout, donc il y a un public pour ce genre d'écriture. Ce qui me rassurait, moi, c'est que c'était réalisé par Tim Miller, qui est le monsieur qui avait fait Deadpool. Donc on a vu que le monsieur était capable de se débrouiller avec pas beaucoup de sous pour faire des choses assez cool. Maintenant là il a un gros budget, peut-être qu'il est plus du tout dans son élément, je sais pas. Ça avait été bien évidemment survalidé par James Cameron, mais on se souvient que James Cameron nous avait aussi vendu Terminator Genesis en nous disant ouais, c'est vraiment le film, c'est vraiment le troisième épisode de la saga et tout.
Super,
merci James. Donc voilà, le trailer est sorti, on vous le linkera dans le biais qui accompagne ce podcast, vous pourrez aller jeter un œil par vous-même. Et moi personnellement je suis vraiment, alors j'étais déjà pas super chaud à l'idée, mais alors là pour le coup ça m'a carrément refroidi.
Ouais, je précise juste un truc, c'est que il part du principe que tous les autres films n'ont pas existé, que
c'est ça,
c'est la suite de Terminator 2 en fait.
Ouais.
Donc c'est le pitch officiel, c'est oubliez les autres bouses, là c'est la vraie suite.
Et
donc du coup allez voir le le trailer, en fait, vous votre idée. Mais bon, tout le monde ne peut pas être. C'était quoi, Fitzpatrick, James Patrick, merde, le T-1000 de Terminator 2, j'ai oublié son nom de l'acteur.
Qui Jason Patrick.
Jason Patrick, voilà. Qui a vraiment, lui, pour le coup, une gueule un petit peu flippante, mais même au naturel. Hein, sa resting face, quand il baisse un peu la tête, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux, tu lui donnes sa monnaie tout de suite, tu vois.
C'est ça.
alors que là, j'ai peur que ça fonctionne pas à mort. Alors, par contre, n'allez pas voir les commentaires du trailer, parce que c'est non seulement t'as les mecs qui critiquent pour le film, mais alors c'est raciste land, misogyne land, parce que il y a tout, hein. Mais alors, elle a beaucoup trop de meufs, parce qu'effectivement c'est que des meufs quasiment à l'écran jusqu'à ce que notre ami Schwarzy débarque, le T-3000 évidemment, étant un peu mexicano sur les bords, je vous laisse imaginer les commentaires américains sur le truc. Y a pas que la communauté de Dota 2 qui sait être toxique, je vous confirme que c'est assez catastrophique.
Allez, on passe du côté de la tech avec la Playdate. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors ça, c'est l'annonce surprise d'avant-hier, le truc que tu savais pas que tu voulais peut-être, en fait. Alors, il y a des gens qui sont très très fans, mais enfin, je vous explique, ça va être un peu compliqué. La Playdate, c'est une console moderne qui sortira en 2020, mais qui est entièrement axée à rétro gaming nostalgie, et trucs un petit peu bizarres. Alors, il faut que je vous explique, c'est fait par une boîte qui s'appelle Panic. Panic, c'est un éditeur qui fait depuis des années des softs indispensables sur Mac, entre autres un gestionnaire FTP fabuleux qui s'appelle Transmit. Ils ont un éditeur de code qui s'appelle Coda qui cartonne, ils ont plein de petits softs comme ça assez pointus et qui fonctionnent très bien, donc ils ont gagné de l'argent et puis ils sont pas nombreux, ils dépensent pas grand chose, donc il y a quelques années ils ont décidé de se faire plaisir, enfin, on est éditeur, on fait des softs, on sait programmer, faisons des jeux vidéo, et donc c'est eux qui ont fait ton jeu préféré de balade dans les bois qui brûlent, qui s'appelle d'ailleurs je ne sais plus
Firewatch.
Comment, Firewatch, voilà, donc c'est eux qui ont fait Firewatch via une boîte séparée, mais c'est les mêmes mecs.
Alors pour préciser, c'est pas du tout mon jeu préféré.
je sais, c'était une petite vanne parce que
je sais
que tu adores parler de ce genre en bien, donc voilà. Et du coup, comme je suis, sur Twitter, tu as toujours les unpopular opinions, c'est-à-dire que tout le monde est dithyrambique sur la sortie de la Playdate, donc leur nouveau projet qui est hardware, vous l'aurez compris. Et moi, je suis le seul en mode genre super, c'est trop très très mignon. Alors, c'est une petite console avec deux boutons, toute jaune. Un écran noir et blanc non rétroéclairé, super, j'adore les trucs non rétroéclairés, et qui se présente comme étant un produit moderne, parce que tu auras du USB-C, du Wi-Fi, du Bluetooth, ça se recharge évidemment avec une batterie à l'intérieur, tu mets pas des piles, on n'est pas des animaux, tu as une petite mallette, une petite molette sur le côté, donc tu as un crank, quoi, comme disent les Américains, et cette manivelle, voilà, c'est le vrai terme que je cherchais, cette manivelle va permettre d'avoir des gameplays un peu chelous sur les jeux qui vont être distribués. Alors les jeux, justement, ça va être fait par plein de cadors du monde du jeu indépendant qui évidemment ont kiffé le projet et qui il y aura avec la console, quand tu vas l'acheter pour le prix de 140 €, a priori si on fait une conversion au doigt mouillé, pour 140 €, il y aura 12 jeux avec la console, 12 jeux qui vont sortir toutes les semaines pendant 12 semaines. Et après, comment tu rajoutes des jeux, comment tu les achètes, c'est pas encore très clair. J'ai pas encore tout compris.
C'est les mecs de Valve qui ont fait le communiqué de presse, c'est ça.
Donc je sais pas s'il y aura, est-ce qu'il va y avoir un store et tout. Ils ont leur propre OS, ils ont développé plein de trucs, hein. Ils ont développé leur propre SDK, les mecs se sont fait vraiment super plaisir. Et pourquoi ça cartonne? Bon, déjà, faut savoir que ils ont quand même bien orchestré la com, puisque ça fait la couverture de Edge ce mois-ci. Avec une magnifique couverture, parce que encore une fois, on est en podcast, donc c'est un peu compliqué de vous expliquer, mais l'objet est ultra mignon. Je comprends que les mecs craquent sur le truc, hein. C'est trop mimi. Alors, faut aimer le jaune, hein. C'est tout en jaune, mais tu peux imaginer qu'ils pourront le faire dans toutes les couleurs qu'ils veulent. Et c'est vrai que le coup de la manivelle, c'est un peu débile, mais c'est assez, c'est nouveau. Donc, vous irez voir les petits gifs et les animations vidéo, etc., qui sont dispo sur le billet que j'ai linké avec le podcast. Et il y a un récap de Numérama que je vous link aussi, mais il y a tout sur le site. Allez voir le site officiel, ils ont fait un truc assez mignon. Et du coup, je suis moi extrêmement, circonspect. Parce que tout ce que j'ai vu en termes de jeux pour l'instant, ça reste des jeux noirs et blancs. bof. Enfin, je veux dire, à l'heure de la Switch, je suis pas persuadé que tout le monde s'enflamme pour le truc. Alors, je suis persuadé que ça va être la console des hipsters. Si vous laissez pousser vos moustaches, il y a pas de problème. Ça
c'est ce que j'allais dire. Ça sera parfait pour jouer pendant que t'écoutes tes vinyles sur ta platine à courroie.
Exactement. Écoute, je veux pas vanner, hein, mais je pense qu'on est quand même un peu dans cet esprit-là. Et c'est un peu l'esprit de panique. Donc, quelque part, tu vois, les mecs, ils sont dans leur élément. Ils assument, ils se font plaisir. Derrière, tous les mecs qui sont quand même à donf sur le projet, c'est un peu des gens de cette mouvance-là. Donc, voilà. Après, est-ce que ça va être un succès commercial à 140 euros? Très honnêtement, non. Enfin, moi, en tout cas, j'en prendrai pas. Hein. J'ai regardé les jeux, je vois pas l'intérêt. Écran noir et blanc, non rétroéclairé, j'ai donné avec la Game Boy quand j'étais gamin et je m'en passe très très bien, merci. Donc, bon, écoutez, ça existe, ça va sortir l'année prochaine, on verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, il y a encore des zones d'ombre dont évidemment on aura les infos en temps et en heure. Mais je suis pas aussi dithyrambique que certains. Après, j'avoue que effectivement, le produit en termes de look se vend tout seul, qu'ils ont fait un design de taré avec une boîte qui aime les choses bien faites. Donc voilà, vous pouvez aller sur le site officiel et balancer votre email pour être contacté quand ça sera dispo et quand vous pourrez l'acheter. Le seul truc qu'on sait actuellement, c'est que les 12 jeux dont je vous parlais, ça sera un Season 1 et qu'après, évidemment, je pense qu'ils vont vendre des passes pour avoir des Season 2 et compagnie, qui doivent être en train en ce moment de faire développer les jeux. Mais encore une fois, je ne sais pas du tout comment ça va se goupiller. Ah oui, précision, évidemment, vous gardez les jeux de la Season 1 après. Hein.
Oui,
c'est pas du jeu,
oui,
c'est pas du jeu éphémère, filme ta thune et casse-toi. Non, tout va bien se passer. Voilà, je vous laisse aller regarder tout ça et vous me donnerez votre avis sur le forum. Pour l'instant, je suis un petit peu mouif sur toute l'histoire.
Ça serait quand même le truc Uber Hipster, ça, les jeux qui s'usent, en fait. Quand tu y as joué 50 fois, tu peux plus y jouer.
Quand t'as trop tourné la manivelle, ça s'arrête. Oh putain, mais t'es un génie, vas-y, on va faire ça.
Allez, on va terminer cette rubrique tech avec la baston actuellement entre les États-Unis et la Chine. On sait que Trump fait un peu les gros yeux à la Chine. Il a imposé des tarifs, comme ils disent. Et ça se passe pas très bien. Voilà, ça se passe pas très bien pour certains constructeurs, dont je vais te laisser le prononcer parce que moi j'y arrive jamais.
Huawei.
Voilà, c'est ça.
C'est Xiaomi. J'ai toujours, tu vois, je suis toujours en galère avec leur nom, mais non, Huawei, c'est pas les pires. Alors, il y en a qui disent Huawei. En fait, vous faites comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Laissez-moi faire comme je veux aussi, du coup. Je vais vous linker deux papiers assez complets sur tout le bordel qu'il y a autour de Huawei, donc qui sont liés à la baston US-Chine actuelle. Il y a un papier de chez Numérama, donc en français, et un papier de The Verge. Et pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, tout le monde est un peu en panique. Il faut savoir que c'est, alors évidemment, quand je dis un peu en panique, c'est, il y a plein de gens qui s'en fichent, ils ont jamais acheté de Huawei dans leur vie, mais le truc est tellement large que même dans le podcast, on n'aura jamais le temps de tout vous expliquer. Alors, il faut que je remette les trucs un peu à plat, parce qu'il faut que je vous explique quelle est la problématique. C'est que les États-Unis ont en gros mis Huawei sur une liste qui fait que, en gros, plus personne aux États-Unis n'a le droit de travailler avec eux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, dans les heures qui ont suivi, Google a dit, on vous enlève Android. Donc, quand tu vends des téléphones Android, c'est pas pratique. Et puis, juste après, il y a des gens qui ont posé la question à Microsoft. Microsoft a dit, non, il y aura plus non plus Windows sur les portables Huawei. Donc, là, c'est un petit peu, c'est la condamnation à mort, hein, pour un constructeur comme ça. Il y a des gens qui se sont dit, oui, mais ils pourront faire leur truc alternatif, c'est pas grave, ils ont un OS dans les cartons, etc. Oui, alors, c'est pas le pire, en fait, pour eux. Le pire pour eux, c'est qu'il y a aussi tous les mecs qui font du hardware qui sont dans la danse, y compris des gens qui ne sont pas américains, mais qui ont des intérêts aux États-Unis et qui, du coup, ne veulent pas se mettre dans la merde et qui préfèrent, en amont, dire, on bosse plus avec eux. Et dans le lot, on trouve des petits noms, genre ARM, Panasonic, Toshiba, qui sont des gros acteurs. Mais le pire, c'est ARM. ARM, c'est les gens qui ont toutes les IP, qui font tous les cœurs des processeurs que vous avez dans vos téléphones. Même quand on achète un téléphone Apple avec un Core A, un A12X, whatever, dans les derniers iPad Pro, par exemple, à l'intérieur, la technologie de base, c'est une technologie ARM. Donc, maintenant, qui appartient à SoftBank, qui a bien joué le coup cette fois. SoftBank est japonais, donc tu te dis, ces gens-là, ARM, c'est anglais à la base, les proprios, c'est des japonais, pourquoi ils font chier, c'est les américains le problème. Sauf que non, c'est 6000 ou 7000 employés, je sais plus combien de bureaux aux États-Unis. Les mecs, ils ont dit, on prend pas de risque, on arrête, on coupe tous les ponts avec Huawei. Et donc, ça fait très mal, parce que Huawei fait ses propres processeurs ARM, mais qui s'appellent, c'est les Kirin, je crois. Et le problème, c'est qu'ils ont besoin de ces trucs-là. Donc, à partir du moment où ils peuvent plus travailler avec ARM, c'est la là, pareil, c'est peine de mort. Et puis, faire un nouveau processeur pour un smartphone, ça se fait pas en deux jours. Il faut savoir que là, ils ont 3 mois de période de grâce, entre guillemets, pour mettre en place les transitions, s'ils peuvent trouver une transition, tu vois. Mais ZTE ne les avait pas trouvés. Ils avaient carrément fermé boutique aux États-Unis et arrêté de faire des smartphones. Donc, ça va être un énorme problème. On sait pas du tout où ça va. Alors, peut-être que ça va aller nulle part. Hein. Peut-être que ce coup de pression va se finir par une poignée de main dans les 3 mois avant que ça arrive à la date butoir.
Ouais, ce que j'allais dire, c'est peut-être juste un coup de négociation à la Trump, en mode on met un petit coup de pression et on voit comment ça bouge.
Ah bah, c'est clair qu'il est en mode bully comme il sait faire. Mais là, la problématique, c'est que ça va toucher plein de monde. Ça touche plein de boîtes américaines qui, elles, se retrouvent dans la merde parce que du coup, ils n'ont plus accès non plus à des technos de l'autre côté. Donc, il y a plein de boîtes américaines qui sont en train de perdre de la valeur. AMD, par exemple, travaille énormément avec Huawei et son action a pris un énorme coup dans l'aile. Ils n'avaient pas besoin de ça, les pauvres. Donc, il y a plein de boîtes qui sont impactées aux États-Unis. Bon, évidemment, Trump étant Trump, il n'a pas bien anticipé ce genre de truc. Hein, la surprise est totale. Mais on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller. On ne sait pas comment va s'en sortir Huawei parce que tout le monde est parti sur l'aspect software. Mais maintenant que l'aspect hardware commence à être un peu plus compris, on ne sait pas du tout comment c'est jouable. Et puis, surtout derrière, on ne sait pas du tout à quelle sauce va être bouffée la victime qui n'a rien demandé à personne, que tout le monde attend, c'est Apple. Puisque Apple, dans l'histoire, ils n'ont rien demandé à personne, mais tout est fabriqué en Chine. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait une riposte chinoise qui vise spécifiquement Apple, dans la mesure où les Américains ont clairement visé à Huawei, tu vois.
Un joyeux bordel.
Ça va être un bordel sans nom. J'attends de voir ce que ça donne. Mais bon, là, je lisais une news comme quoi il y avait des MacBooks et une entreprise d'assemblage qui commençait, un des gros partenaires d'Apple qui allait commencer à assembler en Indonésie dès ce mois-ci. Tu vois, si, je pense pas qu'ils puissent tout bouger parce que Shenzhen, c'est la mine d'or pour Apple et pas que pour Apple d'ailleurs. Mais si la baston se durcit, je pense que achetez vos gadgets maintenant parce que ça risque d'être compliqué très bientôt. Même si nous, on avait rien demandé à personne.
Et c'est la fin de ce 91e épisode de Torréfaction. Si tout va bien, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 8h, pour une nouvelle...
Non, t'arrêtes tout de suite. Maintenant, fais ce qu'il y a, parce que on fait le pont la semaine prochaine. Pour une fois qu'on peut l'annoncer avant.
Eh ben d'accord.
Parce que je te rappelle que jeudi prochain, c'est férié, et je risque de pas être là. Donc, je voulais m'excuser d'avance. Vous savez comment ça se passe en France, le mois de mai, tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout, nous. Hein. Nous autres freelance, le mois de mai, c'est comme d'habitude, en fait.
C'est ça.
avec juste des jours avec moins de mails pour pouvoir nous laisser travailler, c'est juste génial. Mais donc oui, on risque de ne pas être là la semaine prochaine, je préfère vous prévenir.
Et ben voilà, donc rendez-vous dans 2 semaines à 8h pour un nouvel épisode de Torréfaction, et puis d'ici là, bon week-end à tous, et à dans 2 semaines donc.
À dans 2 semaines, on fera peut-être un petit stream si vous êtes sages.
Ciao.
Ciao, ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorycrafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr. On vous y attend, amis True Believers.
You're gonna break your old man's heart.
If I have to.
Nobody has to break anything.
Clearly you've never made an omelet.
You beat me by 1 second.